Voilà, bon, donc aujourd'hui, c'est plutôt une journée qui est orientée vers la conception d'outils, la production d'outils, la proposition d'outils, dans le prolongement de la journée d'hier. Donc on s'est dit que ce serait intéressant de prendre pour support donc un document qu'on a réalisé, enfin que j'ai réalisé avec un collègue de l'IUFM de Strasbourg, l'IUFM d'Alsace, qui s'appelle Éric Flavier, donc qui a fait sa thèse sur le sujet suivant, les conflits professeurs-élèves en éducation physique. Et donc cet outil de formation, si vous voulez, on l'a conçu parce qu'il nous a semblé très utile. Et donc maintenant, ça fait à peu près 3-4 ans, puisqu'il est sorti en 2003. En effet, il nous semble assez utile. Alors, avant de rentrer dedans, je veux simplement donner deux ou trois précisions. Il y a plusieurs façons d'analyser sa pratique, hein. Bon, on peut analyser sa pratique à partir d'une évocation, hein. C'est souvent ce qu'on fait en particulier dans les analyses de pratiques collectives à l'IUFM. On est obligé de s'appuyer sur l'évocation de ce qui s'est dit. Donc, c'est-à-dire, ça passe par la parole et le compte-rendu. Il y a tout un tas de méthodes qui sont basées là-dessus. On peut aussi s'appuyer sur des images. Bon, là, nous, dans notre groupe, on privilégie ce support-là. D'autre part, je pourrais dire que en analyse de pratique, on peut analyser sa propre pratique, hein, et donc, là aussi, nous, on privilégie ça. Simplement, pour le sujet qui nous intéresse ici, c'est-à-dire l'enseignement en milieu difficile, avec des élèves difficiles, ou l'entrée un peu plus spécifique qui concerne les conflits professeurs-élèves, il nous semble intéressant justement de ne pas partir de sa propre pratique, hein, et donc en particulier avec des professeurs novices ou des professeurs qui exercent dans des situations difficiles où ils souffrent, peut-être que de mener des analyses de pratique sur les images d'un autre, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est un outil également en analyse de pratique, on peut également s'en tenir à une analyse individuelle, hein, par exemple dans un conseil pédagogique, à un entretien de conseil après une leçon. On peut aussi mener des analyses collectives. Bon, là, nous, c'est délibérément un outil qui vise une analyse collective, hein, c'est-à-dire que c'est plusieurs personnes qui confrontent leurs interprétations à partir d'une situation d'enseignement, là, une situation conflictuelle. Bon, j'insiste un peu là-dessus, hein, parce que comme c'est des situations qui sont souvent douloureuses, le fait d'aller vers une seule interprétation, hein, vers des jugements un peu hâtifs, souvent ça aboutit à l'inverse de ce qu'on cherche à produire, c'est-à-dire finalement développer le métier, hein, et développer le métier, ça passe forcément par des controverses sur des interprétations à propos de cette situation-là. Voilà. Donc, j'insiste là-dessus parce que c'est un peu le jeu auquel on voudrait vous livrer, là. Donc, à partir de deux ou trois exemples, là, on va voir le temps qu'on a. Mais comme on veut quand même tenir le délai aujourd'hui, ce sera deux ou trois situations qui sont sur ce document. Voilà. Je finirai en disant qu'il y a des points communs quand même à toutes les analyses de pratique. C'est l'idée qu'il n'y a pas de jugement sur l'acteur, hein, de jugement, bon, ça peut paraître secondaire, hein, ou superfétatoire, ça l'est pas. Et il y a aussi une clause de confidentialité. Il y a très peu de chances que vous reconnaissiez les gens qui sont là-dessus, mais ça fait partie quand même des points communs de toutes les analyses de pratique, hein. Voilà. Donc, je vais pas vous passer le document entier parce qu'il est trop long. En revanche, on va passer des séquences et puis on va se livrer à des interprétations sous forme de controverses, hein. Et donc, voilà. À la fin, je spécifierai les règles de métier que nous on a retenues dans le document, hein, donc, et qu'on propose comme contenu de formation, quoi, pour utiliser le mot de. Voilà. Simplement, ce contenu de formation, vous comprenez bien qu'il est également dans toutes les interprétations croisées, hein. Ok, le premier cas, c'est un cas qui se passe en collège et c'est en gymnastique. C'est un professeur novice, hein, donc le premier cas, c'est un professeur novice et les deux autres cas, ce seront des professeurs expérimentés. C'est un début de leçon, c'est un échauffement et vous allez voir, ça démarre par une bagarre entre deux élèves, hein, donc y a deux élèves se échangent des coups et le professeur les sépare. Et donc, il donne une sorte de sanction, hein, et donc c'est à vous de voir. Je crois que c'est une classe de 4e ou 5e, mais ça va être dit dans le document. Là, il faudrait éteindre, parce que là, on ne va rien voir. Alors, les images ne sont pas de très bonne qualité, en particulier parce que sur 200 heures de rush...
Cette leçon de gymnastique agréée est la deuxième d'un cycle de 6 leçons. Il s'agit d'une classe de 5e. Le professeur est débutant et ne connaît pas bien la classe. L'objectif de la leçon est d'amener les élèves au salto avant, au mini trampoline. Le conflit qui va suivre opposera l'enseignant à Mustapha et Saoul dans un premier temps. Par la suite, le conflit avec Mustapha se prolongera. Le cours est commencé depuis 30 minutes.
Et on remonte sans les mains, hein. Mettez-vous, partez du tapis, mettez-vous sur le tapis. Monte sur le tapis. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est bien. Arrêtez de vous pousser, c'est bien ça. Ouais, mais je compte le faire. Vas-y, vas-y. Non, j'ai pas demandé de faire un équilibre roulade. Allez-y les filles. C'est bien ça. Elles font des plus jolies roulades que vous, hein. J'aimerais bien vous... Allez, sans les mains, les mains devant. C'est bien ça, c'est bien, vas-y. C'est bien, allez. Vous laissez passer les autres, je veux voir passer tout le monde. Alors,
vous m'avez fait passer.
À la fin. Tu vas au fond du rang. Allez.
Quand il voit l'échange de coups, le professeur poursuit les élèves et les sépare. Il envoie Saoul dans les tribunes et tente de faire asseoir Mustapha.
S'il te plaît, tu t'assois là. Allez. Pourquoi on va par terre? Tu restes là.
Non, mais je suis
pas. Tu t'assois pas, mais tu restes ici, d'accord? Non, deux minutes, je vais le calmer. Mon... Les garçons, vous vous mettez en rang, je veux plus voir bouger. Si je dois...
Tu vas en rang.
Tu restes ici. S'il te plaît, tu restes ici.
Allez, c'est bon, lâche-moi.
Pour l'instant, tu bouges pas. S'il te plaît, tu restes ici. Hein. Si je te vois partir, ça se passera mal entre nous. Qu'on soit bien d'accord. Allez, vous vous remettez en colonne. Allez.
Revenons une dernière fois sur cette scène.
Monte sur le tapis. Vas-y. Ouais, c'est bien.
On remarque d'abord que l'activité des élèves est intermittente. Il y a beaucoup de temps mort. De plus, si la position du professeur semble correcte pour une supervision efficace, en revanche, ces interventions ne réduisent pas les chamailleries et l'agitation qui règne dans le groupe des garçons.
Allez, vous laissez passer les autres, je veux voir passer tout le monde. Alors,
vous m'avez fait passer.
À la fin. Tu vas au fond du rang. Allez.
Surpris par l'échange de coups entre Mustapha et Saoul, le professeur les sanctionne en les séparant et en les faisant asseoir sur le bord du terrain.
Pourquoi on va par terre? Tu restes là.
Non, je suis pas.
Tu t'assois pas, mais tu restes. D'accord.
Mustapha résiste à la sanction. Il ressent une injustice car, au départ, Saoul lui avait pris sa place plusieurs fois dans le rang.
S'il te plaît, tu restes ici.
Allez, c'est bon, lâche-moi.
Pour l'instant, tu bouges pas. S'il te plaît, tu restes ici. Hein. Si je te vois partir, ça se passera mal entre nous. Qu'on soit bien d'accord. Allez, vous vous remettez en colonne.
Pour résumer, le conflit que nous venons de voir s'organise en plusieurs étapes. La situation de départ se caractérise par une...
Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est une réflexion sur, d'une part, les conditions d'apparition de ce conflit, et d'autre part, sur la façon de... le traitement de l'incident par le professeur. Voilà. Donc c'est le genre de travail qu'on peut initier, si vous voulez, en quelques minutes là. Hein. On remet la lumière et puis. Ça commence toujours comme ça, par 30 secondes de silence. Ce qu'il faut, c'est avoir l'habitude.
Je pense que cette situation d'apprentissage, ou là d'avant, il est situé entre les deux groupes. Hein. Bon, je trouve que les groupes sont peut-être ils sont trop confinés contre la paroi arrière. Donc ce qui se passe, c'est que les gamins, ils n'arrivent même pas à se mettre en fine indienne, puisqu'ils sont les uns côté des autres. Et comment prendre le rang, comment prendre le tour, puisque il n'y a pas de lisibilité. C'est un vrai problème. C'est pour ça que le conflit, va arriver.
Donc toi, tu penses qu'il y a une question de configuration spatiale. Il y aurait certaines configurations qui généreraient des conflits entre élèves et puis là, entre prof et élèves ensuite.
Côté fille, ça se partout parce qu'il y a moins de filles. On a moins. Et puis peut-être qu'il a partout aussi, lui, la parole pour demander aux élèves de prendre le rang correctement. Il a laissé faire. Il a pas agi quand il fallait agir.
Ouais, bon. Je pense que, enfin, moi j'adhère, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a sans doute beaucoup d'autres explications. Vous gênez pas, hein. Alors. D'accord. Bon, ça c'est une grande règle de métier. Hein. Bon, nous on est tous des super professionnels, donc on s'en rend compte tout de suite. Mais bon, c'est vrai que une des. Alors, vous avez remarqué aussi que dans ce document, donc une des règles de métier qu'on évoque avec Eric Flavier, c'est celle-là. Hein. C'est donc le fait qu'il y ait beaucoup de temps de latence, qu'il y ait très peu de temps d'activité. C'est une des situations, une des configurations là qui est pas une configuration spatiale, mais plutôt temporelle, qui est génératrice de bins. Hein, d'autres interprétations peut-être. Alors tu vois, c'est intéressant parce que évidemment, bon, ça, là l'idée, juste pour la reformuler, tu me diras si t'es d'accord avec cette reformulation, c'est donc finalement d'introduire une compétition dans une situation qui doit pas l'être. Et puis, comparant un groupe avec l'autre, surtout dans une activité qui n'est pas compétitive, hein, normalement, si tu veux, c'est peut-être aussi un ingrédient. Bon, c'est marrant parce que cet ingrédient-là, les professeurs novices, ils le voient très rarement. Hein. Donc, quand ils sont confrontés à ces images-là, ça vient très rarement sur le tapis. Hein, d'accord. C'est comme si quelque chose, c'était normal, quoi, finalement, de faire deux groupes de garçons et de filles, et puis de les mettre en comparaison. Bon, moi, je aussi j'adhère, hein, évidemment.
Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on n'a pas la première étape, hein, c'est-à-dire l'entrée, l'introduction avant l'entrée dans la tâche. Parce que là, on a l'entrée directement dans la tâche. Et ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir comment on amène l'entrée dans la tâche. Il y a quand même... Il y a une étape avant.
C'est le début de la leçon, mais c'est vrai que ce sont les élèves qui ont mis le. Bon, moi j'ai vu la leçon entière. Hein. C'est les élèves qui mettent le matériel avec le professeur. C'est un peu agité comme mise en place du matériel, hein. Comme assez souvent.
Mais même pas seulement la mise en place du matériel, il y a aussi les consignes de.
Oui, d'accord. Ce qui a été demandé, ce qui a été demandé, ouais. Oui. Donc là, qu'est-ce que tu as dans la tête? Alors tu penses que y a certaines façons de présenter le travail qui puisque là l'idée c'est quand même de dire bon comment faire pour que ça arrive pas ce genre de choses là, hein, comment faire pour prévenir. Donc dans ta tête tu penses qu'il y a un certain nombre de
préparation avant d'entrer dans la tâche, quelque soit. Moi je suis pas pour DPS, hein, je crois de la
vie. On peut pas être parfait, hein.
Il y a toujours
Non mais
globalement j'y pense, hein, c'est pas seulement que se passe-t-il avant la période d'introduction, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, comment on amène une...
Tu dirais, il y a un climat installé, c'est ça? D'accord.
C'est pas seulement le matériel, ouais. Là, mais c'est ouais.
En effet.
Il y a aussi des choses qui font que lorsqu'ils ont fait leur roulade, ils reviennent sur le tapis, il n'y a pas de circulation, c'est-à-dire ils auraient pu dire aux élèves, faire voir aux élèves, quand je fais ma roulade, je sors du tapis par la droite, ça permettrait qu'il y ait une augmentation plus rapide.
D'accord, donc toi tu penses que c'est, au point de vue organisation, ça aurait pu être plus huilé. Ok, on a le droit de ne pas être d'accord aussi. Hein.
Par rapport à la remarque de la collègue, je crois que c'est, si on essaie de transposer ça, ce que ça peut donner, quand on travaille sur cette forme-là d'analyse pratique avec des stagiaires, hein, je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on peut aller au-delà des images, c'est ce que tu fais, qu'est-ce qui s'est passé avant, faire des hypothèses, et sur ce point en particulier de comment ça s'est passé au moment de la mise en activité des élèves, il faut avoir en tête que c'est un dilemme typique des débutants, qui renvoie d'ailleurs à ce qu'on a vu avec les CF2 de PSLR, c'est-à-dire comment à la fois prendre le temps nécessaire pour donner les consignes, mais en risquant de perdre le groupe, parce que ces moments moraux collectifs sont toujours très difficiles à gérer, et quand les élèves ne sont pas en activité, surtout dans ce type de classe, ils ont envie de faire les roulades, et tout ce que le prof peut dire, c'est une reprise de tête pour eux. Et à l'inverse, le fait de les mettre au travail le plus rapidement possible est une façon, comme vous le montrez hier, d'instaurer l'ordre pour un débutant. Mais la contrepartie, c'est que les consignes nécessaires au déroulement de la tâche n'ont pas été données. Et là, je crois que c'est intéressant, à chaque fois, en analyse de pratique, de reformuler ça en termes de dilemme. C'est-à-dire, par rapport aux remarques qui pourraient être faites par un stagiaire, essayer de les recentrer sur eux. Mais le problème professionnel à résoudre, c'est celui-là. Quel compromis entre la nécessité de prendre du temps pour expliquer ce qu'il y a à faire, rendre lisible justement le dispositif, etc. Mais sans perdre le groupe, donc comment trouver, où sont les sous-entendus du métier là, qui permettent pour un débutant de tenir ensemble les exigences qui sont quelquefois un peu contradictoires à leurs yeux. Ces dilemmes, on les retrouve par exemple dans la nécessité de gérer chacun des élèves, de gérer le groupe aussi. On voit chez Elodie, hier, notre fille, à quel point c'est pour moi le bascule dans un traitement individualisé, une gestion individuelle, à nos biens qu'elle a le groupe à gérer. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces images peuvent permettre, même au-delà de l'image, je dirais dans le réel de l'activité, parce que dans le travail réalisé, de faire replonger les analysants, les analystes, les stagiaires qui sont en situation d'analyser, les faire replonger dans leur propre dilemme professionnel en n'hésitant pas à les reformuler dans le terme où je le fais là.
Oui.
Eux, ils ne les formulent pas forcément ces termes-là, mais ça leur permet de prendre conscience que c'est ça qui fait problème pour eux, c'est qu'il y a des exigences contradictoires à tenir ensemble, et donc il faut faire des compromis. Et le but du jeu, après, collectivement, c'est justement... Moi, ce que j'appelle le genre débutant, c'est aider les stagiaires à fabriquer des compromis qui soient tenables pour des débutants, qui ne sont pas forcément tout à fait les mêmes que les compromis qu'opéreraient les enseignants expérimentés.
Oui, on peut même dire, c'est pour finir la parenthèse là, que tu donnes, on peut même dire que ce type d'analyse de pratique, donc collective à propos d'images sur l'activité d'un autre, hein, pour reprendre les spécificités que je donnais tout à l'heure, ça sert justement finalement à reconstituer collectivement hein, et à tâtons le dilemme qui se pose souvent dans l'urgence, dans la tête de l'acteur, là, en l'occurrence de l'acteur professionnel débutant, quoi. C'est à ça que ça sert, je pense, hein. C'est-à-dire qu'en réalité, on confronte un certain nombre de règles de métier, je reformule ça autrement, qui sont toujours en concurrence les unes avec les autres, hein, et donc qui sont toujours à présenter en termes de priorité, quoi, hein, si on... Donc pour prolonger, est-ce qu'il y a d'autres interprétations sur les conditions d'apparition de cet incident, hein? C'est un peu le risque, tu as raison. C'est un peu le risque de...
Même quand on gère bien, il arrive avec
des... Oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Non, et puis c'est un peu le risque aussi de ce type d'analyse de pratique. Moi, je dis pas que j'y tombe jamais, d'ailleurs, hein, si tu veux. Ou c'est vrai qu'on va vers un enseignement de l'idéal. Je sais pas qui le disait hier, bon, qui correspond pas tellement à une zone de développement du débutant. Hein, Fred l'a bien souligné. Hein.
Tout à fait d'accord pour
Bon, il y a l'idée quand même de mettre des mots sur des choses qui sont douloureuses, hein, quand même. C'est rien que ça,
Et c'est, je crois que c'est là que ça me paraît décisif, justement, de raisonner en termes de dilemme. Parce que parler de dilemme, c'est finalement leur renvoyer toute la complexité du métier et les amener à prendre conscience qu'il n'y a pas de réponse unilatérale tranchée en termes de bonne pratique, mais qu'il y a des problèmes professionnels à résoudre et qu'on cherche des issues favorables dont on n'est pas sûr qu'à chaque fois, elles fonctionnent.
Alors moi, ce qui m'intéresserait quand même, c'est de rester encore 2 minutes sur l'idée que, parce que bon, là finalement, réfléchissez bien, c'est un document sur les conflits prof-élèves. Or là, pour l'instant, donc c'était la demande. Hein, on a parlé de l'incident. Donc, c'est quelles sont les conditions qui ont contribué à l'apparition de l'incident. Le conflit prof-élève, il a lieu après. Hein, je ne sais pas si vous avez vu, c'est quand l'élève il refuse de s'asseoir, il refuse de rester au même endroit, il lui dit bon, maintenant lâche-moi. Hein, donc il dit ça à son professeur. Là, moi, je voudrais qu'on discute peut-être davantage de la façon de traiter de cet incident, hein, de cette bagarre entre élèves, par le professeur. Hein, donc, où là, on s'intéresserait davantage à la question à proprement parler du conflit. Voilà. Bon, ça vous intéresse pas? Bon, on s'en va alors. Mais non, je plaisante. Il y en a un des deux qui celui donc avec qui il rentre en conflit, en effet, il ressent un sentiment d'injustice. Hein. Non, il lui dit pas. Il lui dit pas. Alors ça c'est typiquement en effet ça. C'est typiquement le problème du débutant de mener plusieurs transactions simultanées, hein, ce que sait faire le professeur chevronné, la transaction avec sa classe et une transaction beaucoup moins coûteuse, très limitée et contrôlée avec des élèves qui risquent de... Vas-y, peu importe. Juste, alors, oui, vas-y, et puis ensuite le collègue. Exactement. C'est ce que je voulais rajouter. Il y en a un qui est dans la tribune avec ses copains, et l'autre qui est tout seul devant tout le monde, et qui perd la face. Oui.
Moi, j'ai l'impression qu'il ne voit pas du tout ce qui se passe dans la classe et ses préoccupations, c'est-à-dire que tous ces feedbacks, c'est oui, là vous l'avez bien, mais il ne s'intéresse à rien. Et après, il y a un événement qui lui pose problème et l'événement qui lui pose problème en réglant, mais sans chercher à comprendre pourquoi cet événement arrive. C'est-à-dire qu'il est préoccupé par il faut que ma séance se déroule, il faut que j'enchaîne, la roue d'avant, je ne sais pas pourquoi, etc. Et d'un seul coup, l'événement. Et en fait, il est complètement étranger à ce qui se passe dans sa classe. Alors, moi, c'est l'impression que ça me donne notamment par les feedbacks. Oui, la roulade est bonne, mais il ne regarde rien d'autre.
En même temps, comme tu le dis, il est préoccupé effectivement par le déroulement de la tâche qui était prévue. Et comme on le disait hier, cette préoccupation finalement limite sa disponibilité du point de vue des occupations des élèves, et donc du point de vue de la prise d'information. Là, je crois que ça aussi, c'est important de le dire aux débutants, c'est-à-dire de leur renvoyer des choses qui organisent leur activité. Souvent, ils n'en ont pas conscience, mais du coup, ça révèle, en fait, chez eux, pourquoi, par exemple, là, dans ces situations, ils n'arrivent pas à identifier le moment où il faudrait intervenir parce qu'il y a eu un précurseur de l'esprit de conflit, etc. Donc, je crois qu'il me semble important aussi, dans ce type d'analyse, à la fois de leur montrer ce que peut produire l'analyse à froid comme on le fait là, et en même temps, le fait que quand on est à chaud dans la situation, submergé par les émotions, plus la préoccupation, on n'a pas forcément la même lucidité à l'égard de ce qui se passe. On m'a dit, sinon ça risque là aussi de culpabiliser. Donc je pense qu'il faut insister là-dessus, sur Il y a probablement des transferts qui s'opèrent parce qu'ils vont découvrir des sous-entendus du métier qu'ils vont s'approprier. Mais se les approprier, ça veut dire les mettre à l'épreuve de l'activité et trouver des façons de faire qui sont pas, qui dépassent l'ordre du déclaratif, quoi, à ce qu'on peut dire, et à la façon dont on va ensuite à faire des gestes professionnels progressivement.
Oui, c'est de ça dont vient le conflit, la bagarre vient de là. Hein, c'est qu'il y a un élève qui resquille à chaque fois. Hein, non, il a resquillé une fois, la deuxième fois il resquille. Oui. Oui, là, émotionnellement, c'est un moment qui n'est pas facile pour lui. Mais bon, moi, j'en ai vécu des tas. Hein. Enfin, au début de mon... Enfin, je le répétais à personne, hein, mais ça m'est arrivé, quoi, ce genre de choses-là. Alors, ce sur quoi on insiste avec Eric Flavier, là, c'est... Alors, je vais le formuler pas sous forme de dilemme, et puis après sous forme de dilemme. C'est le fait que dans ces gestions de conflits et prévention de conflits, etc., ça tourne souvent... autour de la question du sentiment d'injustice de l'élève. Et ce sentiment d'injustice de l'élève, il tourne souvent autour d'une sanction qui est pas l'aboutissement d'une enquête. Hein, c'est-à-dire, où finalement, bon, et là, ça a été souligné par certains, hein, c'est-à-dire que finalement, il y a un élève qui resquille, il y a une bagarre qui se déclenche, celui qui a resquillé, il le met avec ses copains dans les tribunes, l'autre, il le met debout, il lui demande de s'asseoir devant tout le monde. Donc, si vous voulez, il y a un sentiment d'injustice qui vient de là, bon, qu'on peut discuter, pas discuter, mais là, bon, c'est une analyse d'activité, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, on met l'accent sur cette dimension qui est souvent invisible du métier, qui est finalement une dimension qu'on appelle judicatoire. C'est un mot un peu compliqué, mais c'est la vérité. C'est-à-dire, le professeur, en plus d'enseigner, de réguler, de balayer la classe, etc., de ranger le matériel, de réparer les filets de volet. En plus, il donne des sanctions. C'est-à-dire, il donne des jugements, hein, il a une action judicatoire, donc, sous forme de sanctions. Or, les conditions du rendu de ces actions judicatoires, elles sont très mauvaises. Parce que il est devant tout le monde, parce que c'est dans l'urgence, d'accord. Et donc, nous, on va plutôt vers une maintenant formulé sous forme de dilemme, très très vite, c'est que là, en effet, un des dilemmes majeurs, c'est de donner une sanction, et là en l'occurrence de séparer les deux personnes, hein, pour que ça risque pas de se détériorer. Mais en même temps, si tu prends cette sanction dans l'urgence, comme t'as pas enquêté, tu risques d'être injuste. Tu vois, donc c'est est-ce que tu prends le temps ou est-ce que tu prends pas le temps? Et nous, on a plutôt tendance, alors à la fin de la cassette, on le dit dans la conclusion, une des règles de métier qu'on propose, c'est de dire voilà, essayons à chaque fois qu'on a un problème de transgression comme ça grave, de différer la sanction, hein, donc on peut, de prendre comme principe de différer la sanction, hein, donc c'est une sorte de réponse à ce dilemme, mais bon, c'est... Oui, ou à l'assemblée du samedi matin, hein. Je dis ça dans le primaire, ça se voit quand même, hein. C'est pas exceptionnel.
Un petit peu plus fort.
Ah si, il peut enquêter. Hein. Oui, non, mais c'était pas ça dont je parlais, mais... On est arrivé à la controverse, hein. Ça a été un peu longué, mais hein, 10h-20, ça y est, on y est arrivé. Non, mais je dis ça, j'ai l'air de dire ça en plaisantant, mais c'est là où ça commence en formation à être intéressant, tu vois. C'est quand il y a des discussions où là, collectivement, finalement, on va reprendre ce dilemme, tu vois. Finalement, c'est ça, je sais pas si je me fais bien comprendre. Non, si tu veux ton intervention, j'ai dit ton intervention qui est une contradiction, si tu veux, c'est, je pense qu'en formation, c'est là où ça commence à être vraiment profitable. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que finalement, le fait que tu m'opposes une contradiction, si tu veux, c'est à ce moment-là où les autres qui assistent à ce débat, hein, bon, finalement, ils retraversent le dilemme qui traverse l'enseignant quand il est. Je me fais mieux comprendre ou non là? Toujours pas, d'accord.
Sur ce support-là, mais je vous montre des images. ça commence à marcher, l'analyse pratique, les stagiaires, on a fait travail d'enquête sur les analyses pratiques sur le fait, puisqu'on accompagne les formateurs d'analyse pratique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se rend compte qu'à l'issue de certaines séances, ils disent on s'est emmerdé pendant 3 heures, et dans d'autres séances, ils disent c'était super intéressant, qu'on a essayé de creuser. Pourquoi dans des groupes, ils disent on s'est emmerdé pendant 3 heures, alors qu'on travaille sur support vidéo, etc. Et dans d'autres séances, ils disent c'est super intéressant. Et à chaque fois, quand ils disent c'est super intéressant, il y a cette idée que tu évoques, que apparaît par rapport à une difficulté qu'ils vivent par procuration, je dirais, et dans un premier temps, ils arrivent sur le plan émotionnel. Parce que quand on monte ça des PCL de PS, ils s'y retrouvent tous. Ils ont tous vécu, et même Jacques disait, même des profs expérimentés sont replongés dans les débuts dans le métier, etc. Donc il y a déjà ce couplage entre les émotions de celui qu'on est en train de regarder et ses propres émotions. Et à partir de là, le travail consiste en multipliant, justement, comme vous le faites, les points de vue, les interprétations, à essayer, en tenant compte de ces expériences que chacun a vécues, de les regarder de manière un peu différente en tenant compte du point de vue de l'autre, et d'essayer de fabriquer ce que j'appelle du répondant collectif, mais qui va être mis à l'épreuve à nouveau entre deux séances d'analyse pratique et le retour à la classe. Et les gestes professionnels, finalement, ils se rôdent dans ce double travail entre ce qu'on peut analyser à froid, formuler des règles de métier qui ne sont jamais tout à fait tenables jusqu'au bout en classe, parce qu'il y a plein d'inattendus qu'il faut gérer, et en même temps, progressivement, des sous-entendus du métier qui deviennent de plus en plus opératoires pour eux, et qu'ils vont convertir en gestes professionnels. Parce que dans une compétence professionnelle, il y a deux dimensions. Il y a la dimension cognitive, hein, didactique professionnelle, passerait comme ça, c'est-à-dire arriver à identifier ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation, et ensuite apprendre à le faire. C'est ce que passerait après la dimension corporelle. Et dans le corps, il y a les émotions aussi. Donc il faut bien entendu, dans ce type de séance d'analyse pratique, on travaille beaucoup sur la dimension cognitive, c'est-à-dire essayer d'attirer leur attention sur les sous-entendus du métier qui leur échappent, et qui vont les aider à repérer ce qu'il convient de faire, ce qu'il conviendrait de faire. Mais ensuite, reste à leur charge, que de leur activité, l'incorporation de ça dans leurs gestes professionnels. Et dans ces gestes professionnels, il y a des émotions, il y a le corps, il n'y a pas que du tout l'adaptation. Mais en même temps, et c'est là que l'hypothèse de genre débutant me paraît intéressante, on se rend compte qu'il y a une règle de métier un peu supra, je dirais, au niveau du genre débutant, que moi je formule comme ça, qui est multiplier les attendus pour limiter les inattendus. Ce qui est une façon de les aider à contrôler leurs émotions. Et quand on regarde ceux des débutants qui effectivement arrivent à se sortir plutôt bien, plutôt pas trop mal de ce type de situation, on se rend compte qu'il y a un phénomène qui est général chez eux, qui est ce que j'appelle la surcompensation. C'est-à-dire qu'ils mettent en place un cadre hyper rigide qui vise justement à limiter au maximum, à multiplier les attendus pour limiter les inattendus. Et dans le cadre, il y a notamment ce que disait le collègue, c'est-à-dire par exemple les dimensions spatiales du dispositif. On peut être à peu près sûr que ce n'est pas pour rien dans la survenue du conflit. Il n'y a pas de lisibilité du tout, ils sont agglutinés, ils n'ont même pas la possibilité d'avoir une file ordonnée, etc. Donc réfléchir avec eux aussi sur des choses qui leur échappent complètement, et oui, que c'est ces dimensions opérationnelles du dispositif, spatiales, temporelles, etc., c'est des choses qui, par exemple, dans la préparation, ne font pas l'objet d'une anticipation de leur part. On le voit chez Elodie. Il y a d'autres aspects, mais ce que je veux dire, c'est que chemin faisant, on arrive à leur montrer qu'il y a peut-être des manières de faire qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles que mettraient en œuvre des scènes expérimentées, mais qui vont les aider dans la mise au travail à régler un certain nombre de problèmes, mais au prix de renoncer quand même, on le verra tout à l'heure, de renoncer à ce qu'ils voudraient faire, c'est-à-dire avoir une classe vivante, où ils n'ont pas à intervenir, ils n'ont pas à avoir d'action judicatoire, etc. Donc je crois que c'est ça aussi qu'il faut les aider à identifier, c'est-à-dire à quelles conditions on peut limiter la survenue de tous ces inattendus. Et une des solutions qu'on voit à l'œuvre chez les débutants qui réussissent, c'est effectivement de multiplier les attendus. Mais du coup, vous voyez, la réaction de certains collègues formateurs quand ils vont les voir, ils disent c'est des fachos. Car moi, j'ai encore en tête une collègue qui est allée voir un PE2 à stage filé en disant on est indigne, c'est inadmissible, le mec, il a mis un truc complètement verrouillé et tout. Et le gars, il est dans une école, une CM2, dans une des écoles les plus difficiles des quartiers de Marseille, à la Saline. Et donc, j'ai essayé de creuser un peu, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Il m'a dit que j'ai vu des élèves silencieux en train de travailler individuellement. Et je dis, le gars, il en est à sa 5e journée de stage filé. Ça ne paraît pas, quand même, en termes de réussite professionnelle, intéressant, hein, comme point d'appui pour aller plus loin. Vous voyez comment aussi il faut pouvoir arriver, d'un point de vue développemental, à.
D'accord, mais moi, ce qui me gêne beaucoup dans vos propos, ce n'est pas le moment où il y a des choses. Les formateurs ont vu comme ça, comme si les formateurs avaient bien la vie et tout ce qui était un peu serré, ils détestaient ça. C'est
parce que c'est un point de vue, là je parle d'un collègue, je n'ai pas dit le formateur, mais c'est, dans notre UFM en tout cas, c'est un point de vue qui est généralisé.
Moi, c'est le fait qu'on puisse décider comme ça, qu'il y a des tendances, alors qu'il y a une variété des enseignants, une variété des formateurs, par moments, c'est, pour moi, c'est insupportable. Je veux dire, il y a autant de variété partout qu'ailleurs.
Je force le trait, mais moi je ne sais pas si ça fait écho ce que je dis. Hein. Moi, dans notre UFM, je ne sais pas si toi, Annie, c'est la même chose, il y a quand même un discours qui est très largement partagé, qui, par exemple, conduit beaucoup de collègues à réagir de manière très virulente à l'égard de PE2 ou de PCL2, qui, dans un premier temps, sont justement dans ce processus de surcompensation. Alors que ce processus, c'est, je dirais, un processus qui caractérise une entrée prometteuse dans le métier. Le problème, c'est de savoir comment faire en sorte qu'il ne se fixe pas à cette surcompensation.
C'est-à-dire que là, l'hypothèse contraire, de dire que quand tu vois quelqu'un pendant une première séance sert absolument, ça peut être un bon démarrage débutant, mais c'est peut-être quelqu'un qui toute sa vie fera ça. Je ne vois pas pourquoi tu déciderais qu'au départ, c'est plus porteur qu'autre chose. Localement, c'est astucieux, mais le fait de généraliser que ça va être porteur de quelque chose de bon, ça, c'est, pour moi, c'est insupportable aussi.
C'est exactement l'inverse.
C'est pas interdit en même temps, c'est interdit d'efficacité malgré tout. Jacques parlait de jugement.
Local et ponctuel, parce que ça démarre.
Sauf que là, on dispose de 30. Oui, mais c'est pour ça que je parle de développement. Le problème, c'est qu'on raisonne toujours. On ne raisonne pas en termes développemental. C'est-à-dire, il en est là, et au niveau où ils sont, les débutants, probablement, et ça repose sur les travaux qu'on conduit, qu'a conduit le CRIA, etc., il y a une très forte convergence là-dessus. Probablement qu'un des processus qui les aide à dépasser provisoirement ces premières difficultés d'instauration de l'ordre, de gestion des conflits, etc., c'est ce processus de surcompensation. Je dirais que c'est un résultat, là, où ça s'y a difficulté, hein, des travaux qu'on conduit depuis plusieurs années. Mais c'est discutable, hein, comme tout résultat scientifique, on peut le discuter. En tout cas, c'est ce qui ressort de mes propres travaux, des travaux conduits par Luc, par d'autres collègues, je pense que dans l'équipe à l'heure TE, vous avez des choses tout à fait comparables. Ce processus, je vous montrerai l'instruction au sosie tout à l'heure, où on voit à l'œuvre, de manière très exemplaire, ce processus de surcompensation, avec justement les contre-coups subjectifs que ça a pour le stagiaire qui voudrait faire toute autre chose, mais qui fait ça pour être efficace malgré tout. Donc c'est ça qu'il faut pouvoir travailler. À la fois, ce que ça produit du point de vue de l'efficience, c'est-à-dire ça les aide à reprendre la main sur les difficultés, mais en même temps, ça relance les questions du côté du sens de l'activité. C'est pas ça que je voudrais faire. Je maintiens les élèves toujours, je les visse à leur place, je leur laisse jamais de plein mot, vous verrez les propos de ce stagiaire. Et je crois que c'est là que ça devient intéressant de travailler sur l'analyse pratique avec cette idée que l'efficacité dont on parlait, c'est des allers-retours permanents entre recherche et moyens d'agir. Et lorsqu'on trouve des moyens d'agir qui aident le débutant à reprendre un peu la main sur ses difficultés, alors se repose le sens de l'activité. Mais on ne fait jamais les deux en même temps. Ça, c'est aussi une constante dans le développement de la compétence professionnelle. Il y a une sorte d'alternance entre des moments où on est contraint, parce qu'il faut bien être efficace malgré tout, d'arriver à mettre la classe en ordre, de la maintenir en vie, c'est-à-dire en ordre d'état de marche. Et lorsqu'ils y parviennent, et ça aussi, quand on regarde l'évolution des TE et T2, on s'aperçoit que quelquefois, il en faut une année pour ça. Et l'année suivante, à la rentrée, ils se disent, je sais maintenant que je vais pouvoir faire autrement. Sur la base d'une première réussite professionnelle, du point de vue d'une efficience qui les a aidés à résoudre des problèmes, mais qui les a conduits souvent à tourner le dos, ce qu'ils auraient voulu faire.
Tout à fait, mais on en voit aussi qui prennent cette dynamique-là au départ, aussi le contexte en école et qui ne change jamais.
Non, mais là, c'est un autre problème que tu poses. La question du développement professionnel, c'est aussi la question de l'enveloppement, c'est-à-dire, du coup, qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, il y a des courts-circuits qui font qu'il y a blocage du développement de la compétence. Ça, c'est une autre question. Ça peut venir du milieu de travail, ça peut venir...
Le blocage du développement de la compétence, c'est une autre façon de voir les choses. Je veux dire, il y a plein de collègues qui pensent que c'est une compétence supérieure. Enfin, c'est ça que je ne comprends pas. C'est qu'il y a une idée. Vous avez comme hypothèse un idéal.
Non. Ce que je renvoie là, c'est un point de vue ergonomique, c'est-à-dire j'essaie de comprendre comment s'y prennent les débutants qui réussissent. Et je pourrais dire que je dois avoir des travaux qui portent sur une population, je ne sais pas de combien de débutants, mais je veux dire, chez les PE, chez les PCL, chez les professionnels, professionnels, etc. Et je repère qu'effectivement, d'un point de vue ergonomique, et comme le font les ergonomes, ce n'est pas un terme de jugement de valeur ou d'idéal, c'est repérer comment les gens développent de l'efficacité malgré tout. Ce que j'observe, c'est qu'au moment de la prise en main de la classe chez les débutants, il y a effectivement chez ceux d'entre eux qui arrivent à garder la tête hors de l'eau, parce que dans ce type de situation, il y a des enjeux vitaux, de manière quasi systématique, ça se traduit notamment, je reviendrai sur Jean-Rosa tout à l'heure, par ce que j'appelle le processus de surcompensation. Mais ce n'est pas du tout un terme de bonne pratique. Tu vois, c'est ça que je crois qu'on est mal entendu là-dessus. Pour moi, ce n'est pas un jugement de valeur, ce n'est pas un idéal, ce n'est pas une bonne pratique. C'est, j'essaie de regarder, en prenant l'activité des débutants au sérieux, et pas du tout en regardant avec des lunettes a priori, ou avec un modèle avec lequel j'essaie de faire un peu d'activité, j'essaie de regarder comment ils s'y prennent, et comment ceux qui arrivent à s'en sortir, justement, fabriquent du genre.
Ce qui est très éloigné du genre. Comme conclusion, ça peut laisser.
Et donc, cette idée de ressources intermédiaires, alors qui est discutable, mais il faut bien se donner aussi des outils à formation pour avoir quelques idées de quel est le sens du progrès professionnel, si tu ne veux pas du tout vers l'idéal, mais du point de vue du développement des compétences, je crois que jusqu'à aujourd'hui, on ne disposait d'aucun outil qui permettait de savoir comment on allait faire passer quelqu'un qui entre dans le métier à une situation où il commence à avoir du métier et à être du métier. Comment ça marche ? Tous les travaux didactiques professionnels d'ergonomie, ils visent à répondre à cette question-là. On n'a pas de réponse aujourd'hui là-dessus. Un des problèmes dans la formation, c'est qu'on a des didactiques disciplinaires, didactiques du français, des maths de l'EPS, etc. On n'a pas de didactique professionnelle de la compétence de la fabrication d'un enseignant. On sait pas mal sérieux. On commence à avoir quelques éléments. Et les éléments que je donne, c'est issu de cette préoccupation-là, qui est à la fois une préoccupation de chercheur, mais aussi une préoccupation de formateur, qui, je pense, est largement partagée.
Par rapport à cette histoire de surcompensation, moi, ce qui me trouble, c'est que, c'est que quand je vois des jeunes qui sont en surcompensation, d'abord, je me demande sur quoi ils surcompensent. Ce qui se passe au bout d'un moment, ça marche peut-être les premiers temps, mais au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on est dans un déficit de sens de l'activité des élèves, et ça génère aussi des troubles comportementaux chez les élèves qui ne savent plus tellement ce qu'ils sont à faire. Et deuxièmement, l'autre limite que je vois, c'est que ceux qui surcompensent beaucoup s'épuisent à essayer de prévoir à l'avance tout minute par minute, hein, ceux qui visualisent leur séance, et tenir 6 heures dans le cas des mecs qui trouvent des mecs dessus, et prévoir tout, c'est impossible. Et on a des espèces de moments comme ça où tout est bridé, hein, et puis tout après, et puisqu'on ne peut pas tout faire et que c'est épuisant de tourner, ou des choses partent à volo, et on aboutit finalement au résultat contraire de celui que je décris. Moi, c'est ça qui me trouble. Ce que je vois, ça va pas dans le sens de ce que tu décris.
Je crois que c'est pas du tout. Je suis frappé de voir que tu resitues les choses dans la temporalité au bout d'un moment. Et je crois qu'on a vraiment beaucoup de mal à comprendre que l'activité de travail, celle des stagiaires comme celle de la sanctuarité, c'est une histoire en mouvement. Et que cette histoire, elle est faite de paliers, d'étapes, de régression, de réorganisation, et qu'effectivement, prolonger la surcompensation sans voir qu'à un moment donné, ça génère, ça permet de résoudre les problèmes, ça génère d'autres problèmes, c'est là qu'il peut y avoir blocage de la compétence. Mais c'est là que justement, le rôle du formateur, c'est d'accompagner ce développement professionnel. Il y a deux attitudes. Soit on dit, ok, la surcompensation, c'est probablement un passage obligé. Toute la question de la formation, c'est comment les aider à sortir de la surcompensation sans perdre les bénéfices qu'ils ont tirés, l'efficience qu'ils ont construite en surcompensant. Je reviendrai sur pourquoi j'utilise cette notion de surcompensation. Et là, reposer les questions du sens de l'activité du prof et des élèves. Mais ce n'est pas la même chose que de dire c'est des fachos parce qu'ils surcompensent. Tu vois ce que je veux dire ? Dans un cas, on a une vision binaire et justement, on a un idéal. C'est pas du tout le sein de mon propos.
Moi, je me permets d'intervenir. Excusez-moi derrière le pont.
Oui.
J'interviens parce que.
Tu voulais de la controverse.
Et je vous dis que quand vous voulez. Non, mais.
Attends, vous voulez de la controverse. Hein, voilà, t'es content. Hein.
Par rapport à ce qu'ils proposent
je reste comme son en classe. Hein, c'est-à-dire que je rejoins, moi, je vous rejoins tous et toutes. Hein, je dirais que le temps, hein, voilà, j'ai vu ça, il faut que j'y arrive. Hein, du coup, je vais faire un élève, attends, ça on verra plus tard. Et on a l'impression qu'ils sont toujours en train de courir en fait quelque chose. Donc, finalement, j'ai envie de dire que moi, je ne me sens pas, je dirais, la position de Frédéric et des formateurs de cette manière-là. Je pense que vous avez tous raison.
Il y a une manière. Il travaille à l'ONU, lui. Hein, et...
C'est la manière dont on entend les choses avec notre
il y a toujours une hystérie.
Parce que là, il y a quand même un élément, je dirais, qu'on zappe. J'ai envie de dire qu'on c'est on a parlé hier, c'est l'histoire propre, sur le fond. Un dirais, d'élèves, de chaque. Donc c'est tout ça. Bon, c'est une intervention simplement pour essayer d'avancer.
Tu lui donner envie de, d'intervenir, ça n'est que
le monde, tu vois. Moi, je suis en MP.
La première remarque, c'est effectivement, j'observe chez le jeune collègue cette façon de faire, il y a de ce qu'on appelle la surcompensation. J'observe aussi qu'il y en a très peu sur la masse des jeunes collègues qui vont mettre en place, qui essaient de la tentative, il y en a un certain nombre pour lesquels c'est échoué. C'est-à-dire que finalement, et j'observe aussi que ceux qui parviennent le mieux à jouir cette efficacité à ce niveau-là sont justement des collègues expérimentés qui sont capables de faire place porte ouverte avec des élèves de l'ULP immobiles qui justement ont parfaitement saisi les ressorts de cette surcompensation devenue finalement une habitude. Et du coup, ma question, c'est quelle est l'articulation, comment peut-on penser en formation d'enseignants l'articulation entre les stratégies personnelles, chacun sait mettre en place, et la stratégie collective de l'établissement. Parce que surcompenser, c'est possible, qu'à condition qu'un ensemble, ou que l'établissement soit sur cette heure. Et on voit bien, enfin moi je me sens très bien pour voir, comment les élèves jouent entre le collègue qui maîtrise parfaitement un type de relation, et puis qui, devant un enseignant plus jeune, et donc qui essaye de mettre en place des règles, comment les règles jouent sans arrêt sur ce différentiel et bien entendu c'est pénalisant pour le jeune enseignant. Et du coup, ça me. Si on pense souvent en termes de stratégie individuelle, mais il n'y a pas d'enseignant isolé, il y a un enseignant qui a sa place en fonction de.
Mais dans la gestion du conflit, ce qui me paraît important, c'est le terme que tu as employé dans lorsque tu dis « il s'arc-boute ». Et je crois que la différence est là, c'est-à-dire que chez le même collègue qui va exiger, parce que semble-t-il, il a pris en compte un certain nombre de conflits et de logiques différentes, qui va exiger, par exemple, le silence et une mise en rang très stricte. Dès l'instant où il ne s'arc-boute pas sur cette pratique, parce que c'est quelque chose où il est arrivé à gérer des compromis, c'est pour lui une bonne pratique. Dès l'instant où, par exemple, Guillemette, que je vous montre hier, elle dit « je marque bout et j'ai compris que j'allais perdre la main ». Parce que cette même exigence, qui est une exigence de silence d'entrée en classe, est pour elle intenable, parce qu'elle n'arrive pas à gérer ce compromis. Et du coup, là, il y a conflit. Donc moi, je crois que ce que tu pointes est extrêmement intéressant, c'est que dans notre discours, il faut être absolument très prudent, parce que le travail étant de repérer effectivement justement ces attendus de manière à limiter les inattendus, de façon à ce que les enseignants et les professeurs stagiaires puissent gérer leurs émotions, comme tu dis, et transformer ces émotions en expérience professionnelle. C'est là leur difficulté. Mais là où nous devons être prudents, c'est que à force de rapporter des éléments comme ça, il ne faudrait pas que ça devienne la bonne recette et la bonne manière de faire. C'est ça qui est difficile. Et je crois que ce que tu pointes dans ton discours, c'est cette chose-là. C'est-à-dire dire à un moment donné, bon, mais finalement, nous avons repéré plusieurs débutants, et quand ils gèrent un conflit, la bonne méthode, c'est cela. Non. Je crois pas que c'est cela qu'il faille dire, et c'est pas comme cela. Donc, je crois que nous-mêmes, nous devons être extrêmement prudents. En revanche, lorsque tu pointes dans ce terme-là, je marque bout sur quelque chose, on sent bien là à quel point le débutant est au bout de ce qu'il peut faire. Donc c'est peut-être sur ces termes-là qu'il faut revenir sur ce conflit. Parce que, par exemple, dans l'exemple que nous voyons ici, peut-être qu'un professeur débutant aurait pu faire, un professeur aurait pu faire la même chose. Dire à un élève, toi tu vas là, toi tu vas là-bas. Et ça se passe bien. Parce que lui, il est pas arc-bouté, justement. C'est-à-dire qu'il a géré autre chose. Et pas forcément, il a pas forcément mieux géré l'espace. Qu'est-ce qui fait que ça s'est mieux passé? Donc, vous voyez, ce qui annule l'idée d'une bonne pratique, mais de quelqu'un qui arrive à gérer des logiques différentes et parfois opposées et qui fait que ça se passe bien. Donc, du coup, il n'y a pas la bonne pratique, mais il y a des gens qui, alors, moi, je le dirais en didacticien, qui ont fait, par exemple, alors très modestement, une analyse a priori et où on a un petit peu invité les collègues à dire, essayons au moment où on réfléchit à notre mise en situation, quelles seraient les difficultés que les élèves pourraient rencontrer, des difficultés qui seraient telles qu'elles mettraient les élèves dans une telle situation d'impossibilité que ça pourrait générer des conflits. Donc là, par exemple, le collègue n'y a pas pensé, mais tu soulèves. Effectivement, ils sont complètement agglutinés contre le mur, et on peut supposer que, comme par ailleurs, il n'a pas une prestance physique, il n'a pas une voix qui porte, etc., que ça va générer du conflit. Mais ça pourrait ne pas en générer. Donc peut-être aussi lorsque tu dis limiter les attendus pour multiplier les attendus pour limiter les inattendus, peut-être que nous on pourrait traduire ça. On va le voir d'ailleurs avec une collègue qui, avec des élèves qui ont des choses, mais des mots très forts. Par exemple, ils disent là, c'est si on a le temps de vous montrer ça. Face au conflit, on a ce que disent les élèves et ils disent des choses terribles. Ils disent elle a peur. Elle a peur de nous. Quand elle se met à crier, toute la classe rigole. On dirait qu'elle n'a jamais crié et qu'elle apprend à crier. Elle exclut un élève hors de la classe et les élèves sont horribles en disant, mais elle est même pas fichue de laisser l'élève dehors. Toutes les trois minutes, elle va à la porte, elle lui dit, tu t'es calmé. Et là, donc, les élèves sont très sévères. Et finalement, ça aboutit à quoi? L'élève lui dit, tu me casses les, voilà, et il tire la porte. Il tire la porte pour être tranquille dehors. Et elle se retrouve dans la salle face aux élèves. Et les élèves disent, c'est inadmissible ce qu'elle fait. Elle est complètement discréditée. Donc là, effectivement, elle s'est arc-boutée. Bon, et on reviendra. Elle aussi, elle a des conflits de logique à gérer. On lui a dit que cet élève était un élève très dangereux, qu'il pouvait s'en aller. Et donc la vie scolaire lui a dit, il faut absolument pas l'exclure. Sauf qu'elle a été mise dans une situation où elle met cet élève dehors. Et au moment où elle se rend compte qu'elle l'a mis à la porte, elle se dit, s'il sort du collège, je suis responsable. Et donc toutes les trois minutes, elle ouvre la porte pour s'assurer qu'il est toujours dans le couloir. Voilà. Vous voyez, et quelle est la bonne pratique? Moi, je crois qu'il n'y a pas de bonne pratique. C'est comment fait-elle pour gérer différents conflits? C'est-à-dire, ce que la vie scolaire lui a dit, comment elle le fait avec les élèves, et à partir de là, voilà, on a une situation dans laquelle on essaie collectivement dans cet établissement, compte tenu des informations que l'on a, de se donner des moyens d'agir. Mais du coup, ce qui est vrai dans cet établissement n'est pas vrai dans un autre établissement. Moi, je crois que c'est là, en sens de il n'y a pas vraiment ces bonnes pratiques. Hein. Je ne sais pas si dans la gestion des conflits, ça relance un petit peu.
Bien sûr.
Ah oui.
Par rapport à la situation dans ces cas, moi, il me semble que c'est une situation d'équilibre dynamique, et un peu comme un mobile, et que quand il se produit un déséquilibre, la difficulté c'est d'agir pour rétablir l'équilibre. Or, la plupart du temps, les débutants, quand il se produit un déséquilibre, ils agissent sur ce déséquilibre et ils l'amplifient. L'amplifiant, à un moment donné, ça devient insoutenable. Et toute la difficulté, c'est de apprendre justement à agir. Peut-être ponctuellement là, mais surtout faire en sorte que l'équilibre se maintienne. Et toutes les difficultés. Ben, par exemple, hier, quand on a vu le film, la jeune là, qui était en difficulté dans sa classe, quand elle discute à la récréation avec l'autre prof d'école, là, l'autre lui dit, mais ça, tu ne dois pas l'accepter, etc. Et en fait, elle va agir là où ça fait mal et elle va continuer à amplifier son problème.
fait, j'en ai vu une la semaine dernière, une jeune qui était en difficulté. Elle veut l'ordre, et qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de mettre les balais en activité, elle leur demande de s'asseoir, de se taire, et tout. Elle va à terre, et bon, elle intervient, et ça dure pendant, pendant des heures, parce qu'elle n'y arrive pas. Et donc, toute la difficulté, c'est de leur apprendre à, enfin, moi, pour moi, hein, c'est de leur apprendre à agir, pas sur le déséquilibre directement, mais d'agir sur autre chose pour rétablir un espèce d'équilibre dans la dynamique générale de la vie.
Je crois qu'il y a deux points sur lesquels on va revenir à travers d'autres exemples. Je vais peut-être parler après. Il y a cette question des attendus. Je disais multiplier les attendus pour limiter les inattendus. Les aider à identifier les bons attendus, qui souvent sont les sous-entendus, c'est tout le problème. Parce que typiquement, l'exemple que tu prends, la collègue qui lui dit tête dans les bras, etc., elle lui donne la carcasse du métier.
Qu'est-ce qu'elle lui dit?
La surface du métier, même pas les sous-entendus. Les sous-entendus sont chez Elodie, par exemple, il y a quelque chose qui nous a tous fait rire. C'est pas par masque. Vous avez ri parce que vous êtes du métier. Elle est tout
énervée à parler de la création.
Elle est là, il faut souligner. Ah, excusez-moi, je souligne. Alors, je lui dis, mais avec la règle, monsieur. Elle ne réagit pas. Ça, c'est un sous-entendu du métier. Quel que soit, par ailleurs, après le geste professionnel, la façon de répondre à ça, le fait de laisser échapper ça, c'est sûr que ça engendre une dégradation très rapide du rapport à la classe, de son autorité, etc. Là, je crois qu'il y a, dans ce travail d'analyse de pratique, ce qu'on essaie de faire, c'est révéler pour eux les sous-entendus qui leur échappent. Mais, et c'est là que je reviens à l'idée de genre débutant, on s'est aperçu que ça ne suffit pas pour que les débutants identifient des manières de faire qui soient appropriables par eux. Et je disais, je crois que j'en ai parlé hier, dans le travail qu'on a fait sur les collèges, les gens de Marseille, on s'est aperçu que, par exemple, chez les expérimentés, là je reviens à ce que tu disais, avec un groupe d'anciens, entre guillemets, où ils ont la manière ritualisée de prendre la classe, qui sont très efficaces. En particulier l'appel pour une prof de PS qui utilise l'appel, qui a fait un passage par la Seine-Saint-Denis et qui s'est forgé comme outil pour prendre la classe, une technique d'appel hyper efficace. Et elle dit avec une classe de 3e, on va voir le final, une classe de 3e très difficile, les élèves sont silencieux, ils répondent oui, bonjour, je suis présent, etc. C'est très fortement ritualisé. Et ensuite, elle présente le travail à faire. Et c'est une façon hyper efficace de prendre la classe en main. Les débutants nous disaient, avec qui on travaillait par ailleurs, les néo dans le collège, et nous, quand on fait l'appel, c'est de sous-généraliser. Et l'un d'entre eux, et c'est là que la dimension collective, ça peut être soit le collectif de travail, mais il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, souvent, les collectifs de travail sont un peu
en.
Donc, il y a des collectifs qui peuvent venir pallier cette absence de collectif de travail, c'est le collectif de stagiaires en formation. D'où l'intérêt de cette analyse de pratique collective, et de l'idée de fabriquer du répondant collectif entre stagiaires pour pallier les carences du collectif de travail dans lequel on qu'elle en appartient sur le terrain. Et l'un d'entre eux dit, mais moi je fais un truc et ça marche vachement bien, parce que moi aussi je faisais l'appel, j'avais le bordel. Quand ils arrivent, je les mets au travail tout de suite. Je leur ai donné des exercices, je leur donne des exercices qui reprennent les exercices qu'on a fait pour le précédent. Ils ont la possibilité, ils savent qu'ils ont le droit de reprendre ça à la maison d'aller pour travailler. Et le cours démarre, où pendant 5 minutes, je fais un contrôle éclair. Ils sont au boulot, c'est le prof de physique. Ils sont au boulot, ils font leur truc, c'est noté. Et pendant qu'ils font ça, moi je fais l'appel, et là, administrativement, je note qu'il n'y a pas mal qui fait ça. Et on filme dans sa classe, et on voit que c'est un TE, et effectivement, avec une classe de 4e très difficile, qui pose beaucoup de problèmes à d'autres profs, ce temps-là est particulièrement efficace pour prendre la classe. Du coup, vous voyez que, par rapport à ce qu'on avait construit de manière un peu. Le modèle qu'on avait construit, qui est l'idée que ce qui met probablement en difficulté les débutants, c'est qu'ils oublient que pour pouvoir faire classe, il faut prendre la classe. Et on s'était dit, prendre la classe, quand on regarde les experts, c'est effectivement une entrée ritualisée dans le cours, la façon de gérer l'entrée dans la classe, d'accueillir les élèves, de se saluer, etc., de faire l'appel. Tout un tas de rituels qui caractérisent souvent le travail expérimenté. On s'est aperçu que pour les débutants, probablement une des façons efficaces de prendre la classe, c'était de mettre le plus rapidement possible les élèves au travail sur ce type d'entrée en activité. Et ensuite, une fois que c'est terminé, ils ramassent les copies et là, ils disent voilà comment on va travailler aujourd'hui, etc. Vous voyez, et c'est là que l'analyse pratique, quand on arrive à faire en sorte ce qui se passe là, je crois que c'est la controverse qui est moteur dans le développement des compétences. Je dirais que moi je crois aux bonnes pratiques, mais pas au sens des bonnes pratiques managériales. La bonne pratique, c'est la mise en discussion des pratiques avec un élargissement des gestes professionnels possibles. Et les stagiaires sont conduits finalement à regarder leur propre activité avec les yeux de notre activité et du coup à s'approprier des manières de faire et à retisser les choses pour construire leur propre style personnel.
Bon.
Peut-être pour rejoindre mon collègue ici, moi je serais tout à fait malheureuse ce soir si en repartant j'avais besoin
en se disant qu'il y a une véritable politique de travail entre l'administration universitaire et l'enseignant, ça fait le jour et la nuit. Ce sont les conditions qu'on retrouve à la classe. Le prof peut abandonner tout terrain qu'il veut, si c'est complètement contredit par l'ensemble par l'administration, la vie scolaire et l'ensemble de l'établissement. Non seulement il n'y a pas de politique de travail, mais c'est une mission absolument impossible. Donc, vraiment, je voudrais insister là-dessus. C'est vraiment parfois invisible quand on a des chefs d'établissement et des scolaires, des conseillers d'éducation qui tirent chacun de leur poids, des stratégies étudiantes, etc. Et puis surtout qui ne veulent pas reconnaître et analyser ensemble la responsabilité collective, si vous voulez, de la gestion de ce qui se passe dans les classes. Ce qui se passe dans les classes, ça tient beaucoup à ce qui s'est passé avant, ce qui s'est pas passé avant, ou à un désaveu, ou à ou n'importe quoi en matière de connaissance des règles, de travail éducatif, tout simplement, par la vie scolaire, hein, par les chefs d'établissement, ou n'importe quoi, et à la confusion entre ce qu'on sait d'une relation individuelle, comment les chefs d'établissement ont l'habitude, et ce qu'on sait de la relation. Véritablement, quand il n'y a pas de gestion collective à l'intérieur de l'établissement, là,
la question, c'est de se dire, est-ce que ce type de formation est adapté pour répondre à ces questions-là ?
Avoir une capacité d'analyse sur la gestion des conflits, tout ce qu'on voit dans la
classe, rien n'est là. Je ne le dirais pas, je suis à la fois complètement d'accord sur ce que tu dis, parce que, mais je pense qu'il y a deux pistes différentes. Parce qu'un ergonome ne peut être que d'accord sur le fait que le milieu collectif de travail est décisif par rapport à la qualité et l'efficacité du travail de chacun, et la santé d'ailleurs du travail de chacun.